Buzz Aldrin quitte à son tour le LEM. Instruit par l'expérience de son camarade, il descend l'échelle plus aisément et, sitôt sur le sol, esquisse des mouvements de gymnastique. La faible attraction lunaire qui l'allège de 5 sixièmes de sa pesanteur terrestre rend ses gestes à la fois gauches et aériens. On dirait qu'il danse. Peut-être, en effet, danse-t-il de joie. Houston s'en inquiète et lui conseille fermement de faire attention. Une chute pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Mais plus les minutes passent et plus les terrestres prennent de l'assurance. Aldrin donne même un petit cours de marche lunaire.
On doit savoir à tout moment où se trouve son centre de gravité. Il faut faire quelquefois 2 ou 3 pas pour s'assurer qu'on est bien sur ses pieds. 3 ou 4 pas suffisent pour s'arrêter en douceur. On peut se déplacer comme un joueur de football, par petits pas de côté, ou bien comme un kangourou. Difficile de dire quelle est la meilleure méthode.
Et les deux hommes ne sont pas venus sur la Lune pour faire de la marche. Leur séjour lunaire a été fixé impérativement à 160 minutes et leurs tâches pendant ce bref laps de temps ont été strictement prévues. Les deux astronautes prennent un cylindre fixé à une des jambes du LEM et en tirent un drapeau américain qu'ils plantent sur le sol, non pour affirmer un droit de conquête, mais simplement parce que c'est celui de leur pays. Et c'est au garde-à-vous, près du drapeau, qu'ils écoutent les félicitations que le président Nixon leur téléphone depuis le bureau ovale de la Maison Blanche.
Hello Neil and Buzz, I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made.
Je voudrais vous dire combien nous sommes tous fiers de vous. Pour chaque Américain, ce jour est le plus glorieux de notre vie. Je suis sûr que le monde entier se joint à nous pour saluer cet exploit. Vous nous parlez de la mer de la tranquillité, et cela nous encourage à redoubler nos efforts pour assurer la paix et la tranquillité sur Terre. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, tous les peuples de la Terre ne forment qu'un, fiers de ce que vous avez accompli.
Et Armstrong répond au président Nixon.
Thank you, Mr. President.
C'est un grand honneur et un grand privilège pour nous ici de représenter non seulement les États-Unis, mais tous les hommes épris de paix de tous les pays. C'est un honneur pour nous de participer aujourd'hui à cette vision du futur.
Le travail reprend. Les astronautes doivent laisser derrière eux les premiers éléments des futurs laboratoires lunaires. Un réflecteur laser qui permettra de mesurer à 1 mètre près la distance Terre-Lune et un séismomètre. Ils disposent aussi un écran de détection du vent solaire qu'ils remporteront avec eux. Enfin, et c'est le plus important, ils doivent récolter des échantillons de roches lunaires que les savants du monde entier attendent avec impatience. Sous les rayons rasants du soleil dont la lumière éblouissante les oblige parfois à marcher à reculons, il se livre à une véritable quête de géologue. Il parle peu. Quelques remarques sur les pierres de lune qu'il ramasse, quelques brèves phrases pour les nécessités du travail, c'est tout. Aldrin, invité par Houston à réintégrer la cabine, n'obtempère qu'à regret. Armstrong le rejoint aussitôt, après une dernière vérification des dispositifs d'envol. L'écoutille d'aigle se referme sur lui. Quelques pièces d'équipement devenues inutiles, les instruments scientifiques et le drapeau américain témoignent du passage des hommes sur la mer de la tranquillité. Armstrong et Aldrin vont tenter de prendre quelques heures de repos avant le décollage. Lundi 12h20. De nouveau, le monde entier connaît une attente anxieuse. L'envol depuis le sol lunaire est en effet la phase la plus délicate de toute l'opération Apollo. Elle n'a jamais pu être expérimentée dans des conditions réelles. Pour décoller, le LEM doit utiliser sa partie inférieure comme une plateforme d'envol. Une défaillance de son unique moteur ou du système de séparation des 2 étages condamnerait les astronautes à rester sur la mer de la tranquillité, prisonniers de leur conquête. Aldrin a commencé le compte à rebours. Sa voix résonne dans la salle de contrôle de Houston.
9, 8, 7, 6, 5. Moteur de montée mis à feu. Magnifique. 30 km/h. 40 km/h. Ça marche en douceur.
Bravo, Aigle. Une minute et tout va bien.
Un peu de tangage d'avant en arrière.
Deux minutes, tout marche bien.
On est en plein sur la Nationale 1.
Bientôt Collins, le solitaire. Collins, l'oublié, qui est l'un des rares Américains à n'avoir pas suivi à la télé l'exploit de ses camarades, verra apparaître Aigle comme une étoile brillant dans le lointain. La part d'inconnu du vol d'Apollo 11 est épuisée. Armstrong, Aldrin et Collins se trouvent maintenant dans la situation qu'ont déjà connue les astronautes d'Apollo 10. De la routine, dira sans sourire un ingénieur de la NASA. Et en effet, les manœuvres inscrites au plan de vol se succèdent avec une ponctualité qu'envirait un horaire de chemin de fer. Lundi 15h35, Aigle rejoint Columbia. L'accouplement des deux vaisseaux de l'espace s'effectue sans incident. 18h13, Armstrong et Aldrin, après avoir soigneusement nettoyé leur combinaison afin qu'aucune poussière lunaire ne pénètre à l'intérieur du module de commande, rejoignent Collins. Les trois hommes sont de nouveau réunis après 29 heures de séparation. 18h50, le LEM est éjecté. 23h30, mise à feu du moteur d'Apollo qui quitte l'orbite lunaire et s'inscrit sur une trajectoire transterrestre. Le long voyage du retour commence. Mardi 12h45, Apollo franchit la ligne imaginaire de la sphère d'influence terrestre. Il est à 322 000 km de la Terre. Mercredi 14h56, Apollo se trouve à égale distance de la Terre et de la Lune, 189 159 km. Et c'est la dernière émission télévisée. Les trois hommes prennent la parole. Voici d'abord Collins, le pilote de Columbia.
Le voyage que nous venons d'accomplir vous a peut-être paru facile et simple. Ça n'a pourtant pas été un jeu. La fusée Saturn V qui nous a lancés est une machinerie incroyablement compliquée. L'ordinateur qui est au-dessus de ma tête a une mémoire de 38 000 mots. Et tous les appareils qui nous entourent sont également compliqués et délicats. Nous avons eu une confiance entière en ces équipements et nous la garderons jusqu'à la fin de la mission. Tout cela n'a été possible que grâce à un très grand nombre de personnes. Vous ne voyez que trois d'entre nous, mais des milliers et des milliers d'autres ont travaillé.
Aldrin, à son tour, prend la parole.
Bonsoir. Ici, à bord, nous pensons que notre aventure représente quelque chose de plus important que le voyage de trois hommes vers la Lune. Elle représente plus que le travail d'une équipe de techniciens, plus que les efforts de toute une nation. Elle est le symbole de la curiosité insatiable qui a toujours poussé l'humanité à explorer l'inconnu.
Enfin, c'est au tour de Neil Armstrong.
L'histoire est à l'origine de ce vol, ainsi que les efforts des générations de savants et de chercheurs qui nous ont précédés. Nous voudrions remercier tous les Américains qui ont construit notre vaisseau, qui l'ont assemblé, qui l'ont essayé. Ce soir, nous remercions tous ces hommes et toutes ces femmes, et aussi tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Bonne nuit d'Apollo 11.
Sept heures plus tard, Apollo 11, soutenu par ses gigantesques parachutes, amerrit dans l'océan Pacifique, à quelques milles du porte-avions Hornet. La plus étonnante aventure de l'histoire de l'humanité a pris fin. Les hommes de la Lune sont revenus sur Terre.